que là, effectivement, au moment où on avait pris rendez-vous, on a reçu ce communiqué, le président n'avait pas fait encore sa déclaration. Et du coup, bah, c'est un sujet, j'ai envie de dire, d'actualité. Bonjour Christine Laverdé.
Bonjour.
Alors, Christine Laverdé, est-ce que, et puis accompagnée pardon, de Valérie Carle. Bonjour Valérie. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu. Voilà. Et puis, moi, j'appuie sur les bons boutons. Voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher des micros, mesdames. C'était le hasard, hein, en plus, hein, notre...
Ah, complet, puisque le communiqué de presse, effectivement, a été publié au sortir des réunions qui préparent la rentrée scolaire. Et si, bien évidemment, le contexte sanitaire a fait partie d'éléments d'analyse de cette préparation de rentrée, on était loin de penser qu'on serait dans cette situation aujourd'hui avec fermeture de tous les établissements scolaires, des vacances regroupées pour toutes les zones en même temps. Et donc tout ceci bouscule un peu tout le monde. Hein. Donc, hasard du calendrier, effectivement.
Alors l'intersyndicale que vous représentez, mesdames, ici, vous avez lancé un communiqué le 30 mars auprès d'une lettre ouverte, j'ai envie de dire, auprès de monsieur le préfet et du directeur académique, parce que vous dites non, là on sort d'une période, enfin on sort, je suis encore bien gentil quand je dis on sort, et je suis assez positif. On est dans une période très difficile aussi bien pour le personnel enseignant que pour les élèves et les enfants. Et là, il y a des choses qui ne vont pas dans le plan scolaire de l'année prochaine, de la rentrée prochaine. Qu'est-ce qui ne va pas, Valérie Carle?
Oui, alors on pourrait...
Approchez-vous du micro s'il vous plaît, Valérie.
Vous l'avez
dit, pour assurer l'équité pour tous les établissements du Lot en termes d'offres de formation, mais également en termes de qualité des enseignements. Et il va y avoir également une dégradation par rapport aux conditions de travail des enseignants qui vont devoir, je dirais, se partager sur plusieurs établissements. Ça va complexifier les emplois du temps et ils en seront certainement moins disponibles pour nos élèves. Donc effectivement, on a des inquiétudes que nous nourrissons pour cette rentrée 2021 qui sont liées aux besoins que nous avons, qui ne tiennent pas toujours compte de la singularité du Lot, qui est la ruralité.
Le CDEN, par contre, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, qu'est-ce que c'est ?
C'est un comité départemental d'éducation nationale. C'est une instance qui est présidée par Monsieur le Préfet, dans laquelle siègent des représentants des élus, conseillers départementaux et maires, l'association des parents d'élèves, la FCPE, et les organisations représentantes des personnels enseignantes. Donc tout ce monde est autour de la table pour faire une analyse globale des situations, hein, premier comme second degré. Et là, c'était donc le moment d'étudier la préparation de la rentrée scolaire du second degré. J'ajouterais à ce qui vient d'être dit, et ça fera le lien avec la première intervention, c'est que ce qu'on constate, nous, quand même, c'est qu'après les différents moments qu'on a vécu depuis un an de crise sanitaire, on voit bien qu'on a des élèves qui sont en difficulté, et qui ont rencontré, on sait tous que ces moments de confinement ont accru les différences. Et aujourd'hui, on a des publics qui auraient besoin d'attention particulière, d'être personnalisés. Et c'est peut-être un des points sur lesquels on a beaucoup insisté en disant que les moyens qui sont prévus pour la rentrée prochaine ne nous permettent pas, ne nous permettront pas, contrairement à ce que veut bien nous présenter l'administration, de mettre en place, à la hauteur des besoins, cette aide personnalisée. Donc ça, c'est un point crucial de nos revendications.
Parce que au premier confinement, du coup, ça s'est passé comment ? Alors, à l'UNSA, vous représentez tout le système collège, lycée ?
De la maternelle au lycée jusqu'à l'université.
D'accord. Et du côté des chefs d'établissement, j'imagine que ce premier confinement a dû être une galère à mettre en place. On sait qu'il y a eu quelques bugs au début. Il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs, entre parenthèses.
Oui, effectivement.
C'est pas évident, quoi.
Ça demande une logistique, vous le dites, hein, notamment, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de parents, à nouveau, avec leurs enfants, nous sollicitent puisqu'il y a des difficultés de connexion. Les enseignants ont une adaptabilité, il faut quand même le souligner, hors du commun. Depuis effectivement cette première expérience, Ils ont particulièrement soigné toutes leurs compétences en termes d'application, mais on ne peut pas se substituer à du présentiel, au contact avec nos élèves. De nombreux enfants, effectivement, ont pu décrocher. Il y a nécessité, effectivement, qu'on puisse les accompagner sur les temps de présence à la hauteur de ce que, effectivement, sont leurs besoins. Et c'est vrai qu'on est inquiet parce qu'à nouveau, on connaît des difficultés aujourd'hui, malgré l'adaptation de nos personnels, en règle générale. Et ce qui équivaut quand même à dire qu'à nouveau, on va avoir des enfants de retour dans nos écoles le 26 avril ou de retour dans nos collèges et lycées le 2 mai. Certains sont en hybridation dans les lycées, il faut quand même le dire, depuis le mois de novembre.
Qu'est-ce que vous appelez hybridation ?
C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des lycéens ne sont pas reçus dans certains établissements toutes les semaines, mais il y a une rotation qui se fait une semaine sur deux. Donc ça suppose une grande autonomie de la part de nos jeunes pour s'adapter à cette nouvelle organisation pédagogique. Et ça demande énormément également au personnel, que ce soit les personnels vie scolaire, les enseignants, pour pouvoir raccrocher, toujours garder le lien avec ces élèves pour qu'effectivement, ils puissent avoir eux aussi de l'ambition dans leurs études. Et on sait à quel point c'est compliqué.
Et on ne parle pas évidemment de ces protocoles sanitaires qui n'arrêtent pas de changer. Et j'imagine qu'à la rentrée, il va y avoir encore d'autres protocoles sanitaires que le personnel et les élèves devront appliquer. Ça va se restreindre, ça va être encore un peu plus compliqué.
Ben, par rapport à ça, il y a deux éléments. Il y a un, le fait que ça change et ça s'adapte aux situations qui évoluent. Malheureusement, mais il y a aussi l'annonce toujours au dernier moment. Ouais. C'est-à-dire qu'on vient de parler d'adaptabilité du personnel enseignant et de l'ensemble du personnel. Moi, je mettrai tout le monde dans la boucle par rapport à ça. Mais là, pour le coup, on voit bien des annonces présidentielles mercredi soir pour une mise en place mardi. Alors, on a eu un week-end rallongé qui fait que le lundi, les élèves n'étaient pas en classe. Mais derrière, on aurait pu penser qu'il y avait eu de l'anticipation et que les ministères avaient été plus ou moins informés des choses. Sauf que ce n'est pas le cas et qu'on s'est retrouvés jeudi et vendredi à s'interroger qui on doit recevoir, qui on ne doit pas recevoir, comment on le met en place, quelle est la jauge. La jauge, elle a changé par rapport au premier confinement. C'est-à-dire qu'au premier confinement, les élèves de maternelle, ils pouvaient être jusqu'à 8. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 12. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là qui paraissent peut-être minimes, mais qui ont un impact très, très, très important. Et il faut mettre, quand on sait qu'il faut mettre tout le monde dans la boucle, et quand je mets tout le monde, c'est les parents aussi. Les parents aussi, il faut qu'ils s'organisent. Tout le monde n'a pas forcément un papy, une mamie à côté. On sait bien que chômage partiel, tout le monde ne peut pas y avoir accès en fonction des professions. Donc c'est pour ça aussi, si vous voulez, qu'à un moment, on a envie de dire pause.
Mais est-ce qu'on a le choix aussi d'agir autrement ? Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu agir autrement,
Christine ? Je ne sais pas si agir autrement. Je dirais pas agir autrement. Ce que nous regrettons, nous, c'est que on ne se serve pas de l'expérience passée. On a eu deux périodes de confinement, certes différentes. Une première période de confinement total, puis une nouvelle période de confinement, on va dire partiel. Les protocoles sanitaires, ils ont évolué. On en est au quatrième ou au cinquième, je ne les compte même plus. Mais on ne se sert pas de cette expérience. Très honnêtement, nous, on l'a déjà dit en instance, aujourd'hui, les personnels, qu'ils soient personnels, chefs d'établissement, qu'ils soient enseignants, ils sont prêts. Ils ont su faire et ils auraient su faire. Mais jeudi et vendredi, ça a été une panique totale parce qu'il a fallu attendre vendredi soir pour avoir un protocole ministériel défini et savoir les professions qui étaient prioritaires et qui ne l'étaient pas, pour pouvoir dire aux parents, vous n'êtes pas dans la catégorie, donc du coup, il va falloir vous trouver une solution. Vendredi soir, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est surtout ça, c'est pas faire autrement, c'est surtout, on a une expérience, mais on a l'impression qu'on part de zéro chaque fois. Mais non, on part pas de zéro chaque fois. Et très honnêtement, nous, on a eu dit à une époque, laissez-nous faire, nous, on saura faire, quoi.
Mais j'ai l'impression que c'est toujours comme ça, en fait, que c'est pas nouveau, que ça fait des années et des années que ça dure. Enfin, j'ai toujours cette impression quand j'écoute les revendications depuis des années et des années. Et j'ai l'impression que c'est toujours comme ça qu'en France, on s'en prend toujours au dernier moment et que du coup.
Je nuancerai quelque peu vos propos. C'est vrai que les modes de communication ont quand même évolué. Oui, que nous, on ne sait plus identifier réellement où se situe la parole institutionnelle. Donc, ça malmène quelque peu quand même aussi la communication que l'on veut instaurer avec nos usagers, que ce soit les familles, que ce soit les enfants, et puis que ce soit aussi toutes les personnes qui travaillent à nos côtés. On n'a pas parlé des agents qui, eux aussi, sont partie prenante quand même de ce protocole sanitaire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre à cette époque. Hein. C'est-à-dire, on est malmené par le mode de communication. Et en même temps, effectivement, oui, il me semble qu'on est porteur de compétences, qu'on sait comment fonctionnent nos établissements et qu'on n'est pas toujours associé, je dirais, dans effectivement ces nouveaux modes d'organisation, ce qui fait que les parents perdent un peu aussi, à leurs yeux, on perd un peu de crédibilité, tous. Et je pense que ce n'est pas favorable au dialogue que l'on veut instaurer et ce n'est pas porteur non plus pour les élèves en termes d'ambition, je pense que beaucoup de personnes sont insécurisées. La crise, effectivement, c'est une donnée qu'on ne peut pas modifier et on comprend tout à fait que c'est les autorités sanitaires qui soient un peu vecteurs des changements. Mais pour autant, je pense que pour ce qui concerne le pédagogique, pour ce qui concerne le fonctionnement des établissements, notamment dans un contexte de ruralité comme le nôtre, il est important que nous puissions être associés.
Le collège de Montcuq, combien d'élèves ?
120 élèves.
120 élèves, donc c'est un petit collège.
C'est une singularité, oui, mais qui n'est pas le seul établissement qui fonctionne de manière peut-être effectivement sur une petite structure. Hein. De nombreux établissements sont partagés comme ça avec d'autres et on a beaucoup de réseaux aussi à faire valoir avec les écoles notamment. Donc c'est d'autres modes d'organisation qui parfois sont un petit peu oubliés.
Est-ce que c'est plus facile quand on n'a que 120 élèves ? À organiser une période comme celle-ci avec tous les protocoles. Peut-être parce que vous avez peut-être un bâtiment qui est plus petit, forcément, j'imagine. Donc, est-ce que ça revient au même proportionnellement ? Est-ce que c'est plus compliqué, plus facile ?
Je ne crois pas qu'un bâtiment du XVIIIe siècle soit plus facile à, effectivement, c'est pas si faux. Vous voulez entretenir.
Faux.
Sachant qu'on a un personnel, effectivement, en termes de personnel, en termes d'agents, qui sont aussi beaucoup moins nombreux. Et qu'on a des modes de fonctionnement en termes de demi-pension qui sont très différents, des parents qui souvent ont vocation à aller travailler sur Cahors. Donc tous ces enfants-là doivent être accueillis à la demi-pension. Et d'apprendre là, par exemple, du vendredi au mardi, qu'il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions, c'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure des solutions pour sécuriser un petit peu ce passage dans ce nouveau confinement.
Il y a un internat ?
Non.
Non.
Il n'y a pas d'internat, bon. Il y a très peu d'internats maintenus sur le Lot parce qu'on a la chance effectivement d'avoir un bon maillage, mais qu'il faut préserver.
Vous intervenez quand vous voulez, hein, Valérie Carla, n'hésitez pas. Christine Laverdé, vous en tant que responsable UNSA, comment va le moral du personnel ? Et là j'ai envie de dire tout le personnel, pas que le personnel enseignant, parce qu'on a vu aussi que ceux qui sont aussi au premier plan, ce sont effectivement ces personnes qui sont au service, qui font l'entretien des bâtiments, qui sont à la cuisine, qui sont avec les instituteurs aussi de maternelle, par exemple. Comment ça se passe ?
Sans oublier, parce que c'est vrai, quand on fait une liste, on a toujours risque d'oublier des personnels, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont suffisamment nombreux pour ne pas les oublier. Tous ces accompagnants d'élèves en situation de handicap, parce qu'on appelle les AESH, qui aujourd'hui ont véritablement une place au sein de notre système et qu'on oublie un peu trop souvent. Comment vont-ils ? Ben, je crois qu'ils sont un peu à l'image de nos sociétés. Hein. Ils sont, je pense, épuisés déjà psychologiquement parce que ça épuise ce contexte sanitaire. Professionnellement, assez déroutés parce que ça a été dit, hein, il a fallu beaucoup d'adaptabilité. Nos inspecteurs ont parlé d'ingéniosité quelquefois, mais je pense qu'on était là-dedans aussi, hein, pour pouvoir garder le lien. C'était ça aussi l'enjeu, c'est-à-dire garder le lien avec nos élèves. Et ce n'est pas forcément plus facile ou plus difficile parce qu'on a un établissement plus gros ou plus petit. Ça tient beaucoup à la relation qu'on a déjà avant ces fermetures, c'est évident. Ça tient aussi après à des aspects très techniques. Hein. On a encore des zones blanches dans le département, qu'on le veuille ou non. L'équipement, même s'il y a eu des efforts, il faut le souligner quand même, hein, de nos collectivités qui sont toujours à nos côtés. Hein. Heureusement qu'on a un conseil départemental, heureusement qu'on a des mairies aussi qui quand même jouent le jeu. Hein. Très peu n'ont pas été dans le... dans l'action. Franchement, il faut le souligner.
Et la région ?
La région, bien évidemment. Enfin, toutes les collectivités, c'est-à-dire pour les lycées, la région, pour les collèges, le département, pour les écoles, les maires. En gros, c'est ça le niveau de compétence de chacun. Mais je crois que, voilà, comment vont-ils ? C'est ça, c'est-à-dire à la fois épuisés, parce que comme tout le monde, on voudrait bien, ça y est, stop, passer à autre chose. Pouvoir aller boire un coup en terrasse, pouvoir aller manger au resto, pouvoir aller au théâtre.
Enfin, faudra attendre. Hein.
Voilà.
J'en ai bien peur. Hein.
J'ai l'impression de dire pouvoir vivre, quoi, parce ouais. que là, on a un petit peu de la survie, même si c'est peut-être exagéré, mais c'est vrai que, voilà, et lassé de tout ça.
Est-ce qu'il fallait les fermer, d'ailleurs, les écoles ? Qu'est-ce que vous en pensez,
ben, je crois qu'aujourd'hui, il y avait quand même une inquiétude, c'est-à-dire qu'on voyait bien que même dans notre département qui a été préservé, honnêtement, les critères, les éléments se détérioraient de jour en jour. Moi, il me semble, même si on a toujours dit qu'il fallait fermer au dernier moment, enfin, attendre, parce que quand même, l'école, c'est mieux quand c'est ouvert, c'était peut-être le bon moment. Il y a les vacances, là, une période de vacances qui arrive. On mise tous sur le fait que ces 3 semaines-là, c'est un pari, et j'espère que le pari sera gagnant, parce que si ça ne devait pas être le cas, pour le coup, ça va être compliqué derrière.
Valérie Carl,
oui, tout le monde sera partie prenante pour faire en sorte que cette période ne soit pas justement un décrochage, une rupture. Il est évident qu'on va se saisir des expériences passées, mais qu'on aura matière quand même à devoir très rapidement éclairer un petit peu les objectifs de fin d'année, notamment au niveau des examens, puisque les lycéens, comme les étudiants de BTS, comme les élèves de collège, comme également les écoles, attendent aussi qu'on nous définisse un peu mieux les contours de cette fin d'année, parce que vous l'avez tout à fait dit, c'est-à-dire que l'important va être le retour. Comment va s'effectuer ce retour ? On sait à quel point nos équipes ont été particulièrement investies. On le disait notamment au niveau de l'inclusion en milieu ordinaire pour les enfants sur le champ du handicap. Mais toutes ces équipes ont été tellement investies qu'elles sont maintenant arrivées à un stade de fatigue extrême. Et il faudra à nouveau, le 26 avril pour les écoles, le 2 mai pour les collèges et les lycées, pouvoir effectivement donner toutes les chances aux élèves de pouvoir revenir sur un parcours qui sera très court pour le troisième trimestre. Il faudra le réussir au mieux, c'est un véritable pari.
Et qu'est-ce que vous demandez alors, on va dire, aux autorités? Alors, je ne sais pas si ce que vous demandez, c'est pour la rentrée prochaine ou si vous le demandez dès la fin de ces vacances qui sont un peu particulières.
Il y a deux étapes. Il y a une première étape qui est cette... Enfin, la première dans la chronologie, c'est-à-dire ce retour après cette période de 3 semaines-là. Et nous, ce qu'on dit, c'est on n'attend pas la veille pour s'y préparer, hein, déjà d'une part. Ça, c'est important.
Là, pour illustrer, vous savez déjà comment ça va se passer la rentrée ou vous êtes encore dans le flou et vous n'avez
reçu aucune... Pour l'instant, on nous dit, vous reprenez, donc ça a été dit, hein, le 26 avril pour les maternelles et élémentaires et une semaine plus tard pour collège et lycée. Mais on ne sait pas particulièrement comment. Est-ce que ce sera encore pour les collèges et lycées ce qu'ils demanderont de l'alternance, c'est-à-dire un jour sur deux, une semaine sur deux en fonction des demandes ? Est-ce que ça sera tout le monde en même temps qu'il revient en présentiel ? Pour l'instant, on ne sait pas. Dans le premier degré, l'hypothèse, c'est tout le monde repart, avec certainement un protocole sanitaire certainement renforcé, lequel, on n'en sait rien. Bon, on a 3 semaines devant nous, mais utilisons-les. Le message qu'on assène depuis mercredi dernier, c'est on s'y met tout de suite, là. On n'attend pas. Et puis après, il y a le deuxième temps qui sera pour la préparation de la rentrée, et ça nous renvoie donc au communiqué commun qu'on a fait, qui est nos élèves, à la rentrée 2021... Ils ne seront pas les mêmes élèves que ceux qu'on a d'habitude à la rentrée 2019, à la rentrée 2018. On sait déjà qu'à cette rentrée 2020, on a dû mettre en place des choses dans nos établissements. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas avoir les moyens en heure pour pouvoir prendre en charge. J'ai parlé de l'espace personnalisé tout à l'heure, mais ça pourrait être le dédoublement aussi. Il y a des classes qui ne seront pas dédoublées alors qu'elles vont être à 30, par exemple.
Donc concrètement, vous demandez quoi concrètement? Par quelle action ça se traduit? Vous demandez des classes supplémentaires? Si oui, combien? Vous demandez du personnel? Lequel? Combien?
Alors, au niveau national, on a demandé un recrutement spécifique en termes de moyens, parce que ça ne peut pas se faire sans ça. Et pour l'instant, on n'est pas entendu puisque les recrutements de concours sont diminués de façon très importante dans tous les domaines. Donc, on se bat là-dessus. Et puis, à minima, d'avoir des moyens supplémentaires en termes d'heures, parce que ça se chiffre en heures dans le second degré, dans les collèges et lycées. Et on n'a pas ces heures. On n'a pas ces heures.
En tout cas, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que ce soit des heures postes, même si la subtilité peut paraître, je pense, aux auditeurs un petit peu compliquée.
Expliquons légèrement quand même, sans entrer dans les détails.
La proposition de l'institution, c'est de donner des heures supplémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnels qui sont à nos côtés sont souvent sur plusieurs établissements. Donc déjà, il y a, comme tout le monde le sait, beaucoup, beaucoup de trajets dans le Lot qui ne sont pas calculés en kilomètres, mais bien en temps. Et c'est vrai que les personnels ne peuvent pas prendre d'heures supplémentaires à la hauteur de ce que l'institution parfois leur demande. Ils ont besoin d'être impliqués de manière tout à fait, avec beaucoup de qualité. Et c'est vrai que ce qu'on souhaiterait, c'est que ce soit des heures postes. Certains enseignants ont dû se mettre parfois à temps partiel pour éviter un troisième établissement. Donc on veut maintenir cette qualité de travail au bénéfice de nos élèves et avoir des heures postes. Et pas des heures supplémentaires.
C'est, comment dirais-je, ça semble assez difficile à mettre en place, non, finalement, quand on vous écoute de ce côté-là. Est-ce que vous les aurez, quoi? Apparemment, non. En tout cas, rien n'est décidé.
Rien n'est décidé. Alors, aujourd'hui, pour l'instant, la réponse institutionnelle, c'est on vous entend. On vous écoute, je suis pas sûre qu'on nous entende, mais on nous a écoutés, ça, c'est sûr.
Oui.
Après, on sait bien que le niveau de décision, il n'est pas ici, hein, il est là-haut, j'ai envie de dire, hein, à Paris, dans le ministère. Et je ne suis même pas sûre que la décision elle soit dans le ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'elle est plus à Bercy. Après, on voit bien que quand le gouvernement veut prendre en charge, et on le voit aujourd'hui, hein, avec tout le soutien qu'elle a à l'économie, qui est remarquable quand même, il faut le dire, on voudrait avoir cette attention sur le système éducatif. On peut pas se résigner à ne pas avoir des moyens spécifiques en lien avec cette situation. C'est pas possible.
Là, vous avez réagi sous forme de communiqué. Est-ce qu'il y aura des actions qui pourraient être amenées ou pas? Je suis désolé de la question, mais c'est vrai que dès qu'on parle syndicat dans l'éducation nationale, on parle action. Hein, oui. Donc
Après action, je pense qu'aujourd'hui, les actions, dans le contexte que nous vivons, elles prennent obligatoirement des formes différentes. Les manifestations, on voit bien que regroupement, distanciation,
bah oui.
Ça ne marche pas trop avec. Donc, ce n'est pas très cohérent non plus.
Puis une manif en Zoom, ça porte
voilà.
Moins bien.
Donc, du coup, on est sur des actions d'interpellation de nos parlementaires, par exemple. C'est quand même eux hein, qui portent nos revendications, entre guillemets, et surtout qui portent aussi l'existence et la vision d'un territoire. C'est aussi ça, si vous voulez, l'important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours voir tout à l'aune d'une situation très urbaine. Ça a été dit tout à l'heure par Mme Carle. Il faut aussi avoir conscience que nos territoires ruraux, on les voit souvent de très loin comme... un idéal. Mais ce n'est pas parce qu'on est en territoire rural qu'on n'a pas des situations sociales compliquées. Et on en a, je vous assure qu'on en a.
Eh ben écoutez, merci en tout cas d'être venu. C'était intéressant, c'était bien de vous donner la parole. On devait faire une pause musicale, vous voyez, on ne l'a même pas faite parce que je pense qu'il y avait énormément de choses à dire et beaucoup plus que ce que le communiqué voulait vous en dire. Et ça nous fait plaisir de vous avoir donné la parole. Merci d'être venu de mon cul, Valérie Carle, quand même.
Merci.
Ça fait un petit chemin. Merci,
à vous.
Je ne sais pas d'où vous venez, Christine.
Moi, je viens, j'habite à côté de Souillac. J'ai les bureaux en face de chez vous. Là.
Bon, voilà, de ce côté-là, ça va.